Qu'est-ce que c'est, ça?
Alors là, moi, je vois des navets.
Ouais.
Sûr. Par contre, ça, waouh, c'est une racine, ça.
Ouais.
Wow. Je sais
c'est
pas,
du salsifis.
Zob.
Ouais.
Non, mais ça me rappelle la cantine quand j'étais petit.
Oui. En boîte.
Ah ouais, putain. J'oublie tout le temps ça, ce que c'est.
Topinambour.
Topinambour.
Zob. Petit goût d'artichaut.
Voilà. Encore... Mais putain, salsifis, mec, tu m'as sorti. Salsifis.
Et même pas, c'est du scorsonnerre, ça, parce qu'on le confond avec le salsifis, mais ça, c'est du scorsonnerre, en vrai.
Si vous continuez, moi, je me casse. Hein,
bah non, on va démarrer.
Maître Capelovici de la cuisine.
Putain, je m'organise. Hein,
s'il vous plaît, quoi.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche les amis, allez-y, installez-vous. Chanteur, rappeur, acteur et maintenant écrivain, j'ai invité celui qui aime bien nous surprendre et qui veut surtout pas être enfermé dans un rôle. J'ai invité Joëstar à déjeuner. Bonjour Joëstar.
Bonjour.
Merci d'être là.
Oui. Tu vois, je veux dire, t'as une tête pour moi qui est synonyme de l'eau à la bouche. Donc, de fait, c'est pas moi qui suis venu, c'est mon corps.
Voilà. ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il fait normalement, Joëstar, le dimanche en fin de matinée?
Waouh. Alors, déjà, il va au marché, en fait. Il va au marché rue de Rennes, au marché bio. Puis. Soit il essaye de convoquer tout le monde pour faire un petit dîner le dimanche soir, bam, donc il ramasse. On essaye de se faire week-end poisson.
Ouais, il est
bam,
fort.
Bam, et... voilà. Donc en général, on commence bien le dimanche avec des petits bulots, des trucs comme ça, bam, bam, une petite salade.
On est bien, quoi.
Voilà, histoire de digérer correctement pour pouvoir. C'est un espèce de plateau télé, en fait.
Mais la table, c'est très important pour vous. Hein. Passer des moments à table et des moments en cuisine, c'est capital.
Ouais, moi, mes moments en cuisine, c'est vraiment les moments où je suis tout seul et je suis très bien et je m'entends super bien avec moi-même à ce moment-là. Enfin, voilà.
Eh ben, on devrait bien s'entendre avec un autre moi-même, là, qui est un chef cuisinier. Je vous présente David Radgeber, Joëstar. Bonjour.
Salut.
David, chef du restaurant L'Assiette à Paris, dans le 14e arrondissement. C'est une cuisine bourgeoise, une cuisine traditionnelle, comme on aime.
Absolument, hein, une cuisine bourgeoise.
C'est quoi la définition, parlons, de cuisine bourgeoise?
Alors, cuisine bourgeoise, en fait, c'était les mères nourricières qui se sont nourries des cuisiniers comme Édouard Lignon ou Antonin Carême ou Escoffier, et qui ont récupéré les vieilles bases et qui faisaient à manger à la maison, donc pour les notables à l'époque.
Okay.
Donc style les vols au vent, les plats un peu qu'on appelle maintenant les plats canailles.
Le dimanche midi, on aime bien avoir des invités qui viennent nous retrouver à table. Eh bien aujourd'hui, ce sera Dani, la chanteuse et comédienne que
ouais
je ne présente pas. On est ravis et je sais que les auditeurs se régalent d'avance de retrouver Dani à table dans un instant. Et Emmanuel Rubin sera de la partie. Alors Joëstar, vous venez nous voir avec ce livre que j'ai adoré, qui s'appelle « Le Petit Didier » chez Robert Laffont. Le Petit Didier, eh bien, évidemment, c'est vous, Didier Morville. Vous racontez votre enfance, vous vous livrez dans ce livre... Comme rarement, hein, on va en parler, mais vous y êtes allé sur la transparence, là.
Ouais, mais je considère que, comme pour les autres qu'on a fait, Mauvaise Réputation et consorts, c'est que c'est des exercices qui ne se font pas à moitié. Enfin, et puis, est-ce que ce ne serait pas une sorte de thérapie pour moi, de me raconter?
On le prend un petit peu comme ça,
mais... Il faut prendre manœuvre à témoin. On a eu des jours où, quand on faisait Mauvaise Réputation, par exemple, le lendemain, il arrivait et me disait « Ah, c'était dur hier ». Enfin voilà, donc ouais, mais je considère, enfin, je suis pas dans l'entre-deux comme, comme garçon, donc du coup, à partir du moment où je monte sur un projet comme ça, bon bah j'y vais quoi.
On va en parler en rentrant vraiment dans les détails parce que c'est un très beau livre qui raconte votre enfance, Le Petit Didier. Vous aimez manger, on le disait, vous aimez la table, vous aimez la cuisine. Vous connaissez bien d'ailleurs la scène gastronomique française et parisienne. C'est un petit peu votre deuxième maison, les restaurants, Joëstar, hein.
Mais pas tant que ça en fait, parce que par exemple moi je passe par Saint-Germain pour aller chez monsieur Candebord manger des huîtres vers 16h un peu tous les jours, enfin voilà, avant de rentrer chez moi
pour s'ouvrir
l'appétit. J'ai ce luxe là, mais j'aime cuisiner, mais
en vacances vous aimez bien passer du temps dans des restaurants, je pense à époque, à Biarritz, voilà,
qui est, voilà, ouais, c'est les vacances, ou alors il y a des Hochepi ou des Ramucho qui viennent chez moi,
voilà,
cuisiner.
Eric Hospital, Ramucho Cordé.
Voilà, cette chance-là. Et bam, oui, non, mais j'aime, bien sûr que j'aime aller En fait, je vais très rarement chez l'autre, mais c'est vrai que le restaurant, c'est très particulier. Et puis, je ne suis pas très dans ces ambiances chalala où dès qu'il y a un peu trop de musique, moi, ça ne me plaît pas.
Ah, non, c'est compliqué.
Dès qu'il y a des lumières artificielles et que je ne vois pas ce que je mange, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, voilà, quoi. Donc, j'aime les ambiances de vrais restos, en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on mange, tiens, justement, aujourd'hui, avec Joël Scott, les Drap Gabert. Olivier, notre ingénieur du son, a sauté. Il a tapé dans le plafond, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on mange, Didier Drap Gabert?
Alors, à l'apéro, on va manger une... C'est une spécialité de l'assiette. Une rillette de jarret de cochon confit au foie gras.
Pardon, ça m'a échappé.
Je vous explique. Rillette confit à la graisse de canard. Avec le foie gras, on dépiote tout ça, on fait une petite charpie, ail confit, oignon pickles, thym, laurier, romarin, tout ça haché, on le met dans une petite, dans un petit pot comme ça, je le fais cuire à la vapeur.
Oh, c'est beau,
et
ça.
Voilà.
Ah bah,
et ça,
voilà. C'est... Moi, j'ai songé à faire des intros d'albums comme ça, un peu entrée plat dessert sur un disque. En allant au papy chez Bertrand Ruguet-Lussac, où quand il arrive et qu'il te fait avec son accent sud-ouest, bon, et alors ce soir, nous avons tac-tac. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire un disque comme ça.
Il y a une musique.
Entrée plat dessert, parce qu'il le chante sur le menu, quoi.
Il y a une musique
voilà,
dans les intitulés.
C'est ce que je viens
d'entendre
là. C'est ça. C'est une façon de vous congratuler et de dire.
Adoubé.
Yélélé.
Ouais. Voilà. Et là, tu l'étales sur le pain un peu légèrement toasté. Et puis c'est.
Eh ben, on va faire ça.
Non, je veux dire, c'est de la radio, on peut le faire en direct.
Ah, on peut tout faire. Hein, oui, on est là pour manger. On a le droit de parler de la bouche
pleine. Santé, hein.
C'est pas de la figuration. Oui, santé, David Drap Gabert. Joël Star, vous avez été élevé par votre père. Hein, vous le racontez dans ce livre. Ça ressemblait à quoi le dimanche chez vous, enfant, justement?
Bah, c'était mon père était. Je crois que c'était un salut aussi. Mon père faisait le marché, quoi. Mon père au départ est un type qui vient, enfin, de la campagne entre guillemets des Antilles, quoi. Donc, il a grandi dans un endroit très rural. Donc, il pouvait parfois acheter un bestiau et puis le préparer comme ça.
Le découper.
Voilà, et ainsi de suite. Enfin, il savait le faire, quoi. Et le dimanche, effectivement, c'était le week-end, il avait le temps. Donc, on mangeait bien, en fait. De temps en temps, il allait chercher des moules, des machins, des tacs.
Oui, c'était pas coquillette jambon beurre, comme vous dites dans le livre.
Hein. Non.
C'était gigot, coco vin et.
Ça pouvait arriver, le coco vin, tac. Mais surtout, il avait ce truc de mimétisme où il va manger quelque part, il goûte un truc, il est capable de le reproduire approximativement derrière. Quoi. Enfin, le mec, il sait. Quoi.
Et vous avez ce talent-là. Moi, je vous ai vu vider des frigos et cuisiner. Et vous savez
faire. Sur la cuisine du pauvre, je me défends bien.
Elle est riche, votre cuisine du pauvre.
Voilà.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Nous revoilà à la table du dimanche autour de Joël Star avec la cuisine de David Drap Gabert, deux passionnés réunis autour de ce déjeuner du dimanche. Qu'est-ce qu'on mange? Tiens, rappelez-nous le plat de résistance, cher David, parce que je vous vois œuvrer au fourneau avec une belle cocotte.
Je fais une poitrine de cochon fermière de chez moi d'Auvergne. Et pas du Pays Basque, parce que bon, ça se ressemble.
Vous êtes un Auvergnat, mais vous êtes à la capitale depuis vos 18 ans. Hein.
Absolument, absolument. Oui, je suis arrivé à Paris.
Chef de l'assiette à Paris, dans le 14e arrondissement, David Drap Gabert.
Et une petite épicerie qui a un an, l'arrière-cuisine, où je fais une petite gamme de street food, où on se marre bien quand même.
Exactement.
Où on boit des coups.
Ça m'intéresse ton truc.
Bah ouais, mais je savais qu'on se rencontrerait, mais il faut laisser faire les planètes, non?
Et puis quand tu chantes, j'ai envie de me jeter en boule par terre. J'adore ce que tu chantes.
La poitrine, donc racontez-nous.
Poitrine de cochon caramélisée. Je fais une petite sauce teriyaki maison. Sauce huître. J'ai bossé un peu en Asie. On va la colorer comme ça, on va la passer à un teriyaki, on la passe au four. Et là, j'ai fait des beaux légumes de saison que je cuis au bouillon de poule, tu sais, mais cuisson à court mouillement. Ça, c'est cool, on cuit aucun légume à l'eau. Que les légumes à l'eau, c'est pour la mère Denis. Hein.
Donc, c'est fini, ça.
On cuit au bouillon, une petite gousse d'ail éclatée, comme ça. Petite gousse d'ail éclatée, huile d'olive. Mais on va le faire ensemble. Hein,
bah avec plaisir, on est là, nous. Hein. Vous nous demandez, on est là pour assister. Joël Star, le petit Didier, donc c'est votre joli récit paru chez Robert Laffont. Un récit dans lequel vous racontez votre enfance, hein, on le disait. Pourquoi vous avez écrit ce livre, alors? Une thérapie, vous m'avez dit tout à l'heure.
Oui, il y a aussi ça. Il y a l'envie de raconter une époque. Moi, je fais partie un peu de cette secte du « c'était mieux avant », avec bien sûr quelques réglages à faire. Voilà. Donc il y a de ça. Et puis surtout, partir sur un truc où on avait un peu tout dit sur le père, l'ambiance, machin, et raconter quelque chose de plus sensitif au niveau de mon enfance, quoi. Où en fait, je m'arrangeais de tout ce qui se passait, quoi. Enfin, voilà. Et puis surtout, raconter une épopée où... où on n'a pas toutes ces infos qui diluent un peu la pensée, l'imagination et ainsi de suite, où effectivement le temps est plus étiré, mais voilà, il fait jouer l'imaginaire, il fait jouer plein de choses, quoi. Voilà.
Oui, et puis c'est vrai, comme vous dites, on est dans une époque aussi. Alors, votre enfance, vous l'avez passée surtout aux côtés de votre père. Il vous a fait croire que votre mère était partie, avait disparu quand même. Donc ça, c'est quand
pour
même
le dire gentiment.
Hein, c'est ça, pour le dire gentiment. Donc c'est quand même déjà difficile à avaler. Et moi, ce que je trouve très touchant dans ce livre, en plus, ça commence par cette scène. Vous passez beaucoup de temps à la fenêtre. Vous êtes à la fenêtre, vous attendez de savoir si votre mère va revenir. Et puis cette fenêtre, elle vous emmène tout le temps ailleurs, j'ai le sentiment, dans ce récit.
Bah, je crois que je suis un peu comme ça encore aujourd'hui, quoi. J'ai la sensation que le monde m'appelle, quoi. Je pense avoir été très tôt ce qu'Antonin Artaud appelait un spectateur du néant. Voilà, donc c'était le but de la manœuvre, hein, raconter l'olfactif, le sonore.
À l'olfactif, il y est, quand vous arrivez dans votre HLM, justement, et que vous racontez que toutes les familles différentes arrivent, qu'on grille du maïs dans les couloirs, qu'il y a des ambiances, qu'il y a des sensations.
Nous, quand Chirac a dit le bruit des odeurs, nous, on se disait, mais attends, mais nous, c'est notre maillot, frère.
C'est ça.
Mais oui, donc, voilà, c'est le cœur.
Vous le dites, hein, vous reprenez cette phrase de Chirac dans le récit.
C'est la vie de tout ce quartier, de tout ce... Cette atmosphère cosmopolite, ouais.
On a du mal à vous en parler parce qu'on imagine que ça a été douloureux, Joël Star, mais le grand sujet du livre, c'est la relation à votre père. Ultra autoritaire, votre père. Je vais lire un passage. Reprenez des rillettes. Et soudain, la porte claque. Je me retrouve tout seul. Il n'a pas dit un mot. Je ne comprends pas, mais j'ai l'habitude. C'est comme ça souvent le week-end et l'été, sans heure précise. Je pense toujours qu'il va m'emmener, mais non, je reste à attendre son retour. C'est une sorte de cohabitation, quoi.
Ouais. Oui, je dirais que je n'avais que lui, donc...
Oui, alors c'est le paradoxe.
Et puis, pour avoir des enfants aujourd'hui, c'est vrai que les enfants ont cette capacité de s'adapter à tout, en fait.
Pas c'est la force de l'enfance.
Sans sortir sans séquelles, mais voilà, quoi. Et donc, ouais, moi, j'étais coutumier du fait, c'est-à-dire que comme on était dans une ambiance très taiseuse, de fait, on attend quand même de voir si il va y avoir une surprise... Une surprise, ça peut être un regard parfois, voilà, au vu de l'ambiance.
Et un peu de solitude hein, aussi qu'on sent dans ce livre. Et justement, l'appel des copains, votre copain Fred dont vous parlez, les copains du foot. On sent que le foot, ça a joué vraiment un rôle dans votre envie d'aller vers les autres aussi.
Oui, je pense que le football m'a déclenché. Enfin, parce qu'il y avait encore ce truc aussi en opposition à l'ambiance de chez moi et le football, puisque je ne pouvais pas... dire à mon père que le père de mon copain m'a offert une tenue et qu'il prétend que j'ai du talent, enfin j'ai quelque chose, blablabla, ça je pouvais pas le... Donc c'était toujours en opposition et donc ça décuplait encore plus cette sensation de le monde m'appelle, quoi. Voilà, et d'un seul coup je suis là et...
Et vous êtes un bon gardien en plus.
Bon mes deux fils qui ont 14 ans et 16 ans sont tous les deux gardiens de but. La nature.
Il y en a un qui est à l'AJ Auxerre.
Oui, il y en a un qui est à Auxerre. Il a re-signé là dernièrement, entre autres.
Hein. Voilà. Vous êtes fier, non? Grave.
Mais qui ne serait pas fier de ce gamin qui a été détecté à l'âge de 12 ans et demi, qui s'inscrit dans sa vie professionnelle, à qui je demande toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, est-ce que tu es heureux, et qui me répond oui. C'est super rassurant pour un parent. Et puis je me dis, il s'est trouvé. Avec les mamans, on a fait le taf, quoi.
Trois gentils. C'est vrai, gentil, ouais. je les connais, vos garçons, ils sont gentils.
Ah ouais, non. Bon, après, on verra, il y a les hormones, c'est oui, pas mais... fini encore.
Alors, les hormones, il n'y en a pas dans les rillettes, là. Hein. C'est un cochon fermier, vous nous avez dit.
Un cochon fermier, ouais.
Donc, on est bien. Très jolie transition.
C'est pas une petite truie. Hein, c'est un vrai cochon.
Il y a de la mâche, il y a de la texture.
Alors, effectivement, l'équilibre est parfait.
Commentez, tiens, dites ce que vous en pensez, Joël Star.
Non, mais moi, je vais avoir que des réflexions grivoises à propos de ce que je suis en train de manger, tellement c'est bon.
Allez-y, on vous écoute.
Mais non, tout va bien. Merci, en tout cas.
Le dimanche midi, c'est chaud, c'est très cochon, c'est très pig.
Eh bien, voilà, on va continuer à parler cuisine avec David Radguébert et Joël Star. On va remonter le fil de votre enfance, toujours, avec le petit Didier, Joël Star. Un livre à lire, vraiment, qu'on aime Joël Star ou pas, il faut lire le petit Didier. C'est le moment d'accueillir Emmanuel Rubin, tiens, pour pratiquer un art cher à la gastronomie française. Venez Emmanuel Rubin, je vous présente Joël Star. Soyez le bienvenu Emmanuel Rubin. Alors, vous êtes venu pour célébrer un art qui nous est cher à la table du dimanche. Il tend une tartine de rillettes, ouais. C'est joli hein, de la part de Esther. On coupe
le café direct.
Voilà.
Ça, c'est le problème quand on rencontre un critique.
On va célébrer l'art de saucer.
L'art de saucer, oui, parce que vous allez voir, ça fait un moment donné qu'on tortille un peu dans cette émission. On a envie de l'évoquer sans l'évoquer, mais on l'aime, c'est la sauce. Et je vous raconter comment en 40 ans, en vérité, la sauce s'est fait siphonner, aussi bien dans nos restaurants que dans nos cuisines. Simplement, voilà, comme je suis quelqu'un de positif, ces dernières saisons, il y a une double génération de chefs. Les bistrotiers, à la manière de Ratberrière, et puis les créatifs qui sonnent le tocsin et disent « Allez, on y va, on remet la sauce, car la sauce, c'est le génie de la cuisine française. »
La sauce, c'est la vie.
Mmh. Et oh, sauce, c'est... Le mec, il en a... même lui mettre les doigts, sauce qui peut.
Voilà. Non, il en a un pro au total, en plus. Pour raconter tout ça, j'adore.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi pour la table du dimanche avec Joe Star à l'occasion de la sortie de son livre chez Robert Laffont, Le Petit Didier, en cuisine avec David Radgeber, le chef de l'assiette à Paris, et vous l'entendez, c'est une cuisine qui convoque les cinq sens.
C'est une cuisine qui chante.
C'est une cuisine qui chante,
on
une cuisine bourgeoise.
On est pas là pour poser du lino. Hein.
Traditionnelle.
J'adore l'idée.
Votre restaurant s'appelle L'Assiette, David Radgeber, c'est à Paris dans le 14e arrondissement. Pour les connaisseurs, c'est l'ancienne adresse de Lulu Rousseau.
Ouais, Lulu Rousseau, mais j'ai une petite anecdote quand même.
Racontez.
Lulu, elle s'appelait Lanus au départ.
Oui.
Ouais. Elle s'est mariée pour changer de nom. Et en fait, attends, c'est vrai. Elle s'est mariée le samedi à 10h, le lundi matin à 8h, elle divorçait.
Ah oui.
Parce qu'à l'époque, comme elle aimait les dames, ça se voyait.
Ah bah
ouais. Donc voilà.
Lulu Rousseau, c'était une des tables préférées de François Mitterrand à l'époque. Hein, l'assiette avec Lulu Rousseau. Vous avez déjà dîné avec des présidents, cher Joe Star. Ça vous est arrivé?
Oui, il m'est arrivé de dîner avec, on va dire, le mec de Julie.
C'est ça, l'amoureux de Julie Gayet, qui n'est autre que François Hollande, c'est ça?
Voilà.
Vous avez dîné à l'Élysée.
Oui.
Ça devait être plaisant, non?
C'est pas mal.
Non.
J'ai préféré quand j'ai joué éloquence à l'Assemblée nationale, c'est vachement meilleur.
Ah, vous l'avez joué à l'Assemblée nationale?
Oui, et paraîtrait-il que... La cuisine de l'Assemblée est meilleure que celle de l'Élysée.
C'est ce qu'on dit parce qu'il y a trois meilleurs ouvriers de France à la cuisine de l'Assemblée nationale.
Non, mais ils ont pari. Moi, ils m'ont fait, quand je suis allé jouer, ils m'ont fait un espèce de buffet antillais. Mais les acras, je les ai mangés qu'au pays ou chez des autochtones vivant ici, comme ça. Quoi. C'était magnifique.
Les Antilles, entre autres. Parlons-en, ce sont vos racines, hein, les Antilles. Ouais. Votre papa est antillais, votre maman aussi. Dans la famille de votre père, vous y êtes allé en vacances. Quand vous étiez gamin, votre père, il vous envoie dans sa famille. Vous ne les connaissez pas. Et au début, on peut dire que ce n'est pas forcément un bon moment.
Assez hostile, l'autochtone. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des histoires de famille qui traînent depuis des lustres. Et moi, mon père me drop là-bas pour que je connaisse un peu le pays, pour que ci, pour que ça. Et en fait, ça ne matche pas terrible parce que... La famille du côté de mon père est sur des embrouilles de terrain, de choses, voilà, enfin, il y a
les indivisions.
Voilà, exactement, blablabla, et moi, j'arrive au milieu de tout ça, quoi. Puis surtout, moi, je suis un petit être urbain, et là, je me retrouve dans une fermette, machin, pendant un mois, droppé, et puis, encore une fois, je pense, comme je disais, un enfant, on peut l'enfumer sur plein de trucs, tant qu'il y a un suivi, tant qu'on... nos enfants, on les aime pour les rendre plus forts, pour les préparer à certaines choses et ainsi de suite, même des choses anodines et bam. Et moi, on me droppait là-bas comme ça, c'est-à-dire on me foutait ce petit truc blanc là autour du cou, tac.
Enfant non accompagné.
Et puis tu vas aller aux Antilles, tiens. Même pas, tu vas aller en Martinique, tu vas aller aux Antilles. Et donc j'arrivais là-bas et voilà.
Dépaysement quand même, les plages de sable blanc.
Aujourd'hui, c'est ce que je cherche quand je pars, c'est le dépaysement. Mais là, c'est pour ça. Le coup, il m'a un peu tombé dessus. Quoi.
Il y a une très belle scène dans ce livre à propos de ça, justement, parce que votre père vous retrouve dans sa famille aux Antilles. Et avec votre père, hein, vous le racontez, c'est une sorte de cohabitation. C'est pas très tactile et vous avez envie de lui sauter dans les bras, vous dites, quand il arrive. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez juste envie ou...
C'est effectivement dur de raconter les choses précisément. Ouais. De temps en temps, on est dans des petits anachronismes pour la scénarie de ce qu'on raconte. Mais je pense qu'à mon avis, en le voyant, bien sûr que d'un seul coup, j'ai mon monde qui s'est remis à restructurer en le voyant, même si c'était en terre inconnue, comme dirait l'autre.
C'est ça. Ouais. Eh ben alors, on va aller en terre connue maintenant avec les sauces de la cuisine française, avec notre ami Emmanuel Rubin qui nous attend à la salle à manger. Donc on quitte, regardez, ce joli plan de travail. venez, cher Joëstar, vous mettre à table avec nous. Alors oui, nous allons célébrer l'art de la sauce dans la cuisine française avec vous, Emmanuel Rubin. Vous allez nous en parler. Alors c'est vrai qu'elles reviennent sur le devant de la scène, ces sauces.
Elles reviennent de loin surtout. Alors d'abord, première chose, moi j'adore toutes les cuisines, mais il faut bien reconnaître qu'il y a une particularité de la cuisine française, c'est la sauce. C'est pas difficile. En France, il y a une sainte trinité. Le père, c'est le produit. Le fils, c'est la cuisson. Le Saint-Esprit, c'est la sauce. Dès le Moyen-Âge, avec un chef comme Taillevent, et si vous ouvrez les ouvrages de Taillevent, on voit qu'il codifie des sauces. Si on fait un grand bond dans l'histoire, et on revient à un grand chef, Escoffier, début du XXe siècle, c'est le début de la cuisine moderne, lui aussi, dans ses ouvrages, qui ont fait référence, il travaille les sauces. Et il y a un malentendu qui se situe du côté des années 60, 70, 80, avec la bande à Bocuse, ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine, qui va finalement évolutionner les sauces, mais ils vont dire on va en finir avec ces sauces qui effectivement étaient un peu bourgeoises, embourgeoisées, sénatorisées, plein de fond, qui bouillonnaient, souvent avec de la farine. Et la nouvelle cuisine décide de dire on va les alléger. Simplement, il y a un malentendu. Le public se dit en fait on veut plus de sauce, et puis toute une génération de chefs, ils vont arrêter de saucer. Si vous ajoutez à cela des chefs telluriques, hein, comme Ferran Adrià l'Espagnol, lui, il ne sait pas la sauce. Il connaît le dressage, il connaît le facteur. Mais ça l'intéresse
pas. La cuisine
pas.
Moléculaire, les garnitures à l'intérieur.
Un chef comme René Redzepi, le Danois, qui aujourd'hui est vraiment une
le
école.
Le Noma, meilleur restaurant du monde.
Exactement, mais il est dans le végétal, dans le minimal. Ils ne connaissent pas la sauce, ce n'est pas dans leur nature. Donc tout ça a fait qu'à une époque où les gens aussi avaient besoin, peut-être une génération de mangeurs qui avaient besoin de faire du sport, la loisirisation de la société, ces gens-là, ils mangeaient pour se faire du bien plus que du bon. Résultat, eh bien, il n'y a plus de transmission. La plupart des chefs, aujourd'hui, ne savent plus faire de sauce. Dans les écoles hôtelières, soit on fait les vieilles sauces qui ennuient tout le monde, soit on ouvre les sachets pour aller cuisiner dans le collectif. Et ça, c'est quand même assez terrible. Et puis chez nous-mêmes, on ne prend plus le temps, on ne sait plus cuisiner les sauces. Mais à chaque fois, il y a toujours une revanche. C'est pour ça qu'on sent que c'est vraiment dans l'identité culinaire française. Là, il y a toute une génération de chefs, et notamment des grands chefs comme Yannick Aleno, qui sont souvent les locomotives de la cuisine, qui ont dit, non, en vérité, c'est là qu'il faut travailler. Yannick Aleno, il y a 5 ans, il écrit un bouquin. Il ouvre son bouquin. Quand il est fini, le bouquin, il dit, en fait, il est nul, mon bouquin. Les sauces, il n'y en a aucune. Il va aller s'enfermer dans son restaurant à Courchevel, le Cheval Blanc, puis à Paris, au Le Doyen. Il va travailler comme un damné pour réinventer un peu les sauces. Alors, il va travailler à base d'extraction, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que quand vous y allez, casser la tirelire, aller chez Le Doyen, vous allez voir qu'il amène du liant. La sauce, c'est l'enrobé, c'est le liant, c'est la liaison. C'est ce qui fait vraiment qu'on monte en appétit. Un chef comme Don Quélé, lui, triple étoile
Arnaud
Michelin.
Arnaud Don Quélé, oui.
Ouais, triple étoile Michelin, à Saint-Tropez, la Vague d'Or, aujourd'hui à Paris, au Cheval Blanc. Il est en train de faire une carte des sauces, c'est-à-dire qu'en fait, vous choisissez votre plat à partir de la sauce.
Et la sauce, c'est la vie. Vous êtes d'accord, David Radgeber?
Le gras, c'est la vie. Le beurre, c'est le bonheur.
Donc rassurez-nous, il y aura une sauce avec ce plat du jour, cette belle poitrine de cochon fermier.
Il n'y aura pas une sauce, il y aura un jus de rôti. J'ai fait un jus court.
C'est quoi la différence entre une sauce et un jus, alors?
Ah bah une sauce, c'est crémé, c'est monté au beurre. Un jus, c'est un jus court. Avec celui-là, par exemple, j'ai pris les parures de la poitrine de cochon. Je les ai fait rôtir, 3 déglaçages. Aille en chemise, échalote.
Est-ce que ça vous plaît, Joëstar?
Et on déglace au bouillon de poule.
Ah non, mais moi, je suis complètement conquis, là. C'est rare que je me taise aussi longtemps.
Oui, c'est vrai. Il était très attentif.
Il a fait des salades.
Non, mais je le regardais un peu comme quand j'étais jeune, Jacques Trémolin.
Jacques Trémolin, les animaux, là, c'était le mercredi après-midi.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Nous voilà de retour à la table du dimanche. Vous pouvez vous abonner au podcast sur europe1.fr si vous avez raté le début. Un joli début avec Joëstar, le petit Didier pour les intimes. C'est le titre, tiens, le petit Didier de son récit paru chez Robert Laffont. Je vous le conseille vraiment. Lisez ce livre. Vous découvrirez Joëstar, même si vous le connaissez bien, même si vous êtes fan de NTM, même si vous le suivez depuis qu'il est sur scène au théâtre, depuis qu'il fait du cinéma, on va découvrir vraiment un Joëstar intime qui se raconte sans filtre. Et comme on le disait au début, vous y êtes allé à fond dans la sincérité, Joëstar.
Ouais, mais je sais pas, je trouve que c'est... Enfin, faire ce genre d'exercice à moitié, ça sent le dépôt de bilan, quoi.
C'est ça.
Voilà.
C'est une belle expression.
Voilà, à partir de moi, c'est Manœuvre, hein, moi, c'est Manœuvre qui m'a mis là-dedans. Ils ont mis
Philippe
2 ans Manœuvre. À m'engrainer. Oui, quand on a fait Mauvaise Réputation, ils ont mis 2 ans à m'engrainer parce que je disais ce truc. Je disais, mais Mais écrire un livre, qui s'intéresse? Et puis, enfin, ça sent le dépôt de bilan, le truc. Ça veut dire que je suis arrivé au bout de quelque chose. Enfin, voilà. Non, mais
le début, là. Vous racontez votre enfance.
Alors, en langage justement. Terminator, on appelle ça un préquel.
C'est ça. Il y a la suite. On attend les épisodes suivants. Faisons un petit point recette avec vous, David Radguébert, du restaurant L'Assiette. C'est vous qui nous régalez aujourd'hui au fourneau. Alors, rappelez-nous le plat du jour, une belle poitrine de cochon fermière.
Poitrine de cochon fermière d'Auvergne, caramélisée avec une petite teriyaki maison. Et j'ai cuit des légumes automnales en beaux morceaux, cuits à cormouillement.
Alors, il y a du salsifis, il y a de la carotte, il y a du topinambour, du navet. Hein.
Il y a des navets, il y a du navet boule d'or.
Quand vous dites cormouillement, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-nous la technique.
En fait, je fais suer, moi je ne cuis pas les légumes à l'eau, je fais suer les légumes à l'huile d'olive, ouais. Une petite gousse d'ail éclatée. Et en fait, je déglace au bouillon de poule, c'est-à-dire que quand tu cuis à l'anglaise, tu vas rajouter
cuire à l'anglais, c'est cuire dans de l'eau bouillante salée.
Voilà, hein. Et on est obligé, pour capter la chlorophylle, couper la cuisson et garder la couleur, on est obligé de le mettre dans l'eau glacée. Là, tu rajoutes de l'eau à l'eau. Donc, ton légume, il a le goût de flotte.
Et là, il va avoir un
et
bon
là,
goût de
cuis,
bouillon.
Et là, je le cuis comme ça. Donc, chaque légume cuit dans sa propre cuisson. Je récupère tous les sucres du bouillon de poule, je le monte au beurre, un peu d'huile d'olive, et je mets un petit trait de vinaigre. PAM! Qui va venir casser le gras comme ça.
Voilà. Ça va réveiller tout
ah,
ça.
Ah, le BAM, là.
Le dimanche, Joëstar, c'est l'occasion de prendre le temps d'écouter de la musique, par exemple. La musique, eh bien, elle vous berce, évidemment, depuis votre enfance. Vous en parlez, d'ailleurs, dans le livre. Hein, la stéréo de votre père, le tourne-disque, la chaîne IFI, et puis les disques auxquels vous n'avez pas le droit de toucher.
Tous les disques, je n'avais le droit de toucher aucun disque. Enfin, voilà. Mais comme pour tout un chacun, le dimanche, c'est le week-end, on prend le temps, quoi.
Je vais vous faire écouter quelques morceaux qui correspondent à des moments de votre vie et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser et à quelle époque ça correspond.
Ouh, bordel.
Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche.
Ah bah, moi, cette époque-là, je suis dans l'incompréhension de ce morceau, en fait.
Alain Barrière.
Breton. Je trouvais ce morceau d'une tristesse absolue, quoi. Alors, donc, ça devait être peut-être les petits moments de spleen de mon père. Je me rappelle que c'était ce truc qui revenait. On devait forcément l'écouter une à trois fois par semaine, répartie bien achalandée sur la semaine. Enfin, ça,
voilà. Vous en parlez dans le petit Didier, là, votre récit. Autre titre, rien à voir.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.
Ça vous a plu, ça, comme style, ça vous a éveillé à quelque chose.
Je pense que c'est des choses qu'on travaillait sur moi avec le temps et qui sont ressorties après. Moi, j'ai vraiment pour but à l'heure d'aujourd'hui de remettre le slow au goût du jour.
Ouais.
Pourquoi ça te dirait pas de danser un slow avec moi?
Emmanuel Robin et Joëstar. On va filmer, on va mettre sur les réseaux sociaux de Robin.fr.
Ça disparaît déjà.
Mais c'est vrai, mais ça permettait de draguer les slows.
Par exemple.
C'était mieux que Tinder quand même, non?
Ouais, puis c'est un genre d'accélérateur de particules, quoi.
Tu vois, si t'avais un râteau, t'avais déjà quand même un prémisse.
Ouais, mais déjà, t'avais approché le truc.
T'avais des hanches, quoi.
T'avais une sensation même olfactive, tu vois. Voilà, non, mais tout ça pour dire que. Je pense qu'il y a. Ne serait-ce que des trucs de timbre de voix que j'ai pu faire en musique comme ça, sans forcément tout le temps pouvoir expliquer le tout, me viennent de tout ça, bien sûr.
Et ça, on va pouvoir le voir, tiens, dans votre biopic sur NTM Suprême, qui sort au cinéma le 24 novembre.
Ouais, c'est mortel. T'as l'impression que t'es déjà mort, mais que les gens s'activent comme autour. Non, mais c'est vrai que c'est très étrange. C'est très étrange. Et alors, je vais réutiliser cette expression. Et si c'est loupé, ça sent le dépôt de bilan, hein, bien sûr. Alors, la prochaine fois, je dirais, ça sent le. Et tout le monde dira,
dépôt de bilan.
Voilà. Tac. Non, c'était très étrange parce que, comment dire, Audrey Strougo, elle a fait un vrai travail de fond sur le truc. C'est-à-dire que c'était pas la première fois qu'on nous proposait ce truc.
Oui, c'est la réalisatrice, oui.
La réalisatrice, pardon. Et nous, on n'en voyait pas l'intérêt. Enfin, moi, c'est dur d'être protagoniste et spectateur à la fois de sa vie, quoi. Donc, voilà. Moi, ma vie, je la vis pour moi depuis très longtemps. Je ne vis pas dans l'œil de l'autre. Donc voilà. Et elle a eu la pertinence de proposer l'épopée du groupe au travers de l'époque, en fait. Expliquer l'époque et le pourquoi d'eux. En fait, elle avait envie de poser une question. Mais comment ces deux mecs-là se sont retrouvés à faire ça, machin? Ça correspond à une époque, ça correspond aussi à ça. Ça correspond aussi au fait que Trust n'existait plus, Balavoine était mort, enfin voilà, dans toute cette partition-là, il restait chrono en fait.
C'est ça,
et la France aime les chansons à texte en fait depuis toujours.
Et sociétale, qui parle de notre vécu, de ce qui se passe.
Donc je crois qu'on est arrivé à ce moment-là et elle avait envie de raconter l'époque et expliquer tout ce truc-là en fait.
Aussi un nouveau son.
Hein ?
Aussi un nouveau son.
Ouais, mais ça c'était la difficulté parce qu'on nous prenait pour des punks.
Ah, au tout départ.
Oui, oui.
Est-ce qu'il est arrivé au punk d'ailleurs ?
Voilà, exactement. Non, mais surtout tu. Faut se remettre dans le contexte. On est dans les années 80, on signe chez Sony, on s'appelle Nique ta mère. Nous, au départ, on n'était pas partis pour faire carrière. Hein. C'était juste pour dire. Enfin, moi, dans mon idée, c'était voilà, on l'a fait. J'avoue que moi, le premier chèque, j'allais me barrer avec, quoi. Heureusement que Cool Chain est un peu plus pragmatique et il m'a rattrapé. Oui, alors ça, c'est pas la musique de mon enfance, hein. Même si ça remonte.
C'est la musique de l'enfance de beaucoup de Français, justement, de Français et de Françaises, pas que dans les bacs.
Non, mais c'est surtout, et puis dans la dynamique de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aussi, on a sorti notre premier disque, Vauvelin est tombé une semaine après, quoi, les émeutes, tout ça, tout ce truc cyclique qui arrive tous les 10-15 ans en France, on est tombé aussi à ce moment-là où quelqu'un mettait des mots derrière tout ça et représentait, entre guillemets... des gens qui étaient en souffrance, quoi.
C'est encore le cas du rap et du hip-hop français aujourd'hui, vous diriez ou...
Oh, c'est compliqué tout ça, disons. Parce que la posture première, c'est d'avoir l'air d'un gangster ou d'un mec qui tient les boîtes aux lettres. Hein, et l'air de rien, c'est devenu très populaire, donc commercial, quoi.
Oui, voilà. C'est moins sociétal, ça met moins l'accent.
Si, ça l'est dans la posture, mais aujourd'hui, comment dire, le petit Didier, ça raconte quand même ce truc de. D'un gamin en fait qui est spectateur du néant et qui s'invente, qui laisse son esprit vagabonder. Aujourd'hui, les gamins, ils allument un téléphone ou une télé ou autre et ils voient un mec qui a des chaînes en or, on dirait qu'il a gagné au loto, il est dans un pick-up, à l'arrière du pick-up, il y a une piscine avec des meufs dedans, et enfin voilà, on n'a plus le caractère, je sais pas. De ces histoires qu'on nous racontait quand on était jeune et on faisait waouh, hein, tout est mâché, tout est donné comme ça, bam.
Donc c'est digéré déjà.
Ouais, tout est digéré. Donc c'est facile, c'est un petit peu facile de s'inscrire dans cette posture quand t'as déjà les codes en fait. Voilà, on rêve plus autant, quoi.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire et bon appétit hein, si vous êtes à table. C'est la table du dimanche avec Joe Star et David Radgeber au fourneau, le chef du restaurant L'Assiette qui s'apprête à nous régaler avec une poitrine de cochon fermière caramélisée aux légumes de saison. C'est un jour particulier le dimanche pour vous, Joe Star, vous diriez ?
Je reviens sur le fait que ouais, un peu plus le temps... j'étire le temps à mort et puis j'essaie... dès que ce peut, de rameuter mon groupe familial. J'essaye, mais c'est super difficile d'organiser un repas du dimanche soir. On est tous là.
Et vous aimez ça, hein, ce moment de table et de se rassembler autour de la table.
Ah bah quand ils se taisent tous, c'est rassurant. Je me dis, bon, voilà.
C'est bon.
Oui, tant que je n'ai pas droit aux gros yeux et ainsi de suite.
Mais on vous voit hein, sur votre réseau social, sur Instagram, mettre les plats du daron, comme vous dites.
Ouais, voilà, ouais, la cuisine du daron. Ouais. Non, mais voilà, la mère de mes deux premiers enfants, un jour, a eu une réflexion qui était assez drôle. Elle était avec ses copines et elle est enceinte et elle leur dit de toute façon l'autre il m'a complexé de rentrer dans la cuisine, mais même de rentrer tout court. C'est-à-dire que le mec, moi je partais en tournée, je faisais un plat au four, je faisais un plat en sauce, je faisais même des petits glaçons pour son smoothie du matin toute la semaine. Enfin voilà, tac, elle me disait mais t'es un malade. J'ai dit non, mais il faut que ça se passe bien. Enfin, voilà. Parce que nous sommes une insulte aux gens bien portants sans rentrer dans le détail, donc du coup, on veut que les enfants aillent bien.
Il y a des mères nourricières et il y a des pères nourriciers aussi. Alors, on a demandé à nos auditeurs, Joe Star, ce qu'ils aimeraient faire avec vous s'ils passaient le dimanche en votre compagnie. Ça vous inquiète, justement
Pardon
Eh bien, écoutez.
Si demain, Joe Star s'invitait chez vous, par exemple, un dimanche.
J'imagine un peu le personnage, Bonne Franquette, où tu ferais un excellent bœuf bourguignon avec des grosses tagliatelles et un truc bien en sauce, je pense que ça pourrait lui plaire.
Ça serait surprenant, je sais pas pourquoi, mais ça serait surprenant de le voir en mode gastro, tablier et grande cuisine quoi. Je sais pas, c'est pas trop l'univers selon moi.
C'est pas sa cam, le côté étoilé, c'est ça ?
Ouais, je sais pas, j'imagine.
Si vous aviez l'occasion de passer un dimanche avec lui, vous feriez quoi ?
Pour se faire une petite pétanque, un truc simple quoi, à mon avis, c'est un mec simple, je pense. écouter du bon son et qui chante en live. Ça serait le bonheur.
Moi, j'apprendrai un slam et je ferai un gros slam avec lui le dimanche juste après aussi.
Dans le salon ?
Ce serait pas mal, oui, de faire avec lui des activités un peu plus manuelles ou artistiques. Découvrir un peu qui il est.
Il a vachement changé depuis avec tout ce qu'il a fait dans les films, etc. Ouais, récemment, j'ai plutôt vu, je sais pas, dans Police. Je pense qu'il a fait le jury de La Nouvelle Star à un moment.
Et moi, voilà. J'ai fait son retour à Bercy il y a 10 ans avec, et je l'ai vu dans les coulisses se descendre une bouteille de rhum juste avant de rentrer sur scène. Il y avait ses filles en première partie. Il s'est fait une demi-bouteille comme ça au goulot à cul sec. Voilà, dédicace.
Ah bon?
Vous aimez le rhum, Joël Star?
Le dernier, il
fallait
pas l'inviter.
Ouais, non, mais je
ne savais pas.
J'avoue, je suis ce qu'on appelle un super tanker. C'est-à-dire que j'ai tellement de contenance que je ne rentre pas dans le port. C'est les bateaux qui viennent à moi. Et c'est vrai que pour moi, aller chanter, c'est très festif dans l'idée. Donc,
vous avez fait une série documentaire qui s'appelle La Route de la Soif.
Ouais.
Où vous êtes allé en Martinique, vous êtes allé dans les Caraïbes,
autres.
Entre autres.
Ouais, on a fait l'océan Indien aussi. En fait, l'idée c'était, oui, enfin non, mais quand je suis parti, j'étais un Béotien. Nous, on était parti boire un coup au départ. On s'est retrouvé ridicule, c'est-à-dire que il y a tout le cursus du sucre, la canne, tout ça. On peut pas arriver boire un coup. Et puis il y a les différents savoir-faire, il y a les blending, les machins, les tac tac, nanana. Et d'un seul coup, tu as envie de raconter ça, quoi. Tu as envie de raconter la différence qu'il y a entre ces gens qui sont, par exemple, béquets, descendants d'eux, qui ont un savoir-faire, machin. Et des gens comme la Maison Biel, c'est un mec qui arrivait de Pondichéry, qui était français, machin, qui a découvert une vieille distillerie et qui a dit, mais qui a goûté le produit, qui a dit, mais ça, je peux le faire, ça. Et donc, voilà, donc j'ai découvert des savoir-faire, des différentes cannes, enfin, tac, toutes les strates de tout ça, de la distillation et tout ça. Et c'est juste magnifique, c'est passionnant.
Et les auditeurs aussi apprécient votre changement de carrière, si je puis dire. Le fait que vous confrontez au théâtre, au cinéma, il y avait un côté, entre guillemets, au tout début, marginal avec NTM. Et aujourd'hui, vous êtes devenu Bankable. Il y a quand même, vous faites le remplaçant, 7 millions de spectateurs.
8, dis donc.
8 millions, excuse-moi, tu vois.
8 millions de spectateurs. Entends-moi ta grande gueule, là.
8 millions de spectateurs sur TF1.
Ouais, mais je me dis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc très français de se dire, je passe d'un truc à un autre. Non, enfin, je laisse parler ma fibre artistique. Voilà, on me propose des choses. Je me dis que j'ai pas le métier le plus dangereux au monde. C'est-à-dire que partir sur un projet, la première fois que j'ai fait du théâtre, je suis pas au bord d'un précipice. J'ai pas toute une famille. Enfin, c'est un projet artistique. Si je m'essaie pas, je mourrais idiot.
Faut sortir de sa zone de confort.
Tout à fait. Moi, j'aime chier dans la douleur. Pardon pour. Enfin, vu qu'on est à table, hein, bien sûr. Voilà. Non, mais je veux dire. Non, mais l'idée. Se faire plaisir, c'est ça, quoi. C'est comme on dit, c'est se mettre en difficulté, c'est mouiller le maillot, c'est se dire, tiens, j'ai jamais fait ça. Moi, je suis juste artiste, en fait, donc c'est pas vertigineux, réellement.
Ben, on va accueillir quelqu'un, je pense, qui a la même vision que vous, qui aime se confronter à différents styles, à différents genres. Vous la connaissez, c'est le moment d'accueillir Dani, notre comédienne et chanteuse qui est avec nous.
Didier Chéri.
Didier Chéri et Dani. Bonjour, Dani, merci d'être là.
Merci Dani.
C'est un plaisir. Installez-vous. On a écouté Questa Questa, qui est extrait de votre album Horizon Doré. Pourquoi vous avez proposé ce duo à Joëstar, Dani?
Parce que c'est venu une évidence. On lui a demandé de travailler avec Pierre Grillet, qui est le monsieur qui a écrit la chanson. Il a dit oui. On a passé un jour en studio sublime. Et quand on a sur la route des personnes comme lui, qu'est-ce qu'on peut faire à part se dire bonjour, boire un petit coup du rhum qui est le sang dans ses veines. Et puis voilà, après, c'est comme si c'était une évidence.
Cet album, plus de 25 films au compteur pour vous, Dani, qui a même vendu des roses à une époque.
C'est pas vendu des roses, c'est être rosieriste. Hein. Oui. Attention. C'est pas pareil, quelque chose, c'est un peu compliqué.
Oui, on cultive des roses quand on est rosieriste.
On cultive des roses et on est rosieriste et on a dans son parcours un monsieur qui cultive des roses qui sont des variétés exceptionnelles. Et comme une dingue, j'ai dit, il faut ouvrir un magasin de roses. Ça, je m'en flatte un peu parce que je suis la seule à l'avoir fait dans le monde entier.
Qui est devenue une chaîne aujourd'hui.
C'est prétentieux, hein, Didier.
Non, mais
c'est la vérité.
Au nom de la rose.
J'ai adoré faire ça.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Oui. Nous voilà de retour à la table du dimanche. Bon appétit, hein, si vous êtes à table également. Joë Starr est des nôtres depuis 11h jusqu'à 12h30. Et Dani nous a rejoint, chanteuse, comédienne et rosiériste, s'il vous plaît.
Oui, oui, hein, et puis femme aussi
normale. Et puis femme aussi, femme normale. Oui. Femme normale qui vit à Tours.
Oui.
Hein, vous avez quitté la capitale ?
Ben, j'ai quitté un peu la capitale parce que mon fils habite à Tours. Et voilà, pour les enfants, les petits-enfants et tout ça, c'est sympa. Et Perpignan, c'était trop loin parce que c'est mon côté cœur, Perpignan, oui, mon enfance et tout ça. Et puis Tours, c'est un deuxième Paris. Il y a une histoire, il y a une architecture, il y a la Loire qui passe sans bateaux commerciaux et tout ça. Et c'est très agréable.
Et il y a des rayons.
Ah oui, il y a surtout les rillettes.
Et les rillettes de Tours.
Les rillons, pardon. Ah,
c'est de la poitrine de cochon.
Voilà.
Hein, c'est des gros lardons, hein, des gros carrés. C'est de la poitrine de cochon qui est confite. C'est délicieux, ça. C'est un peu comme le confit de canard, mais en poitrine de cochon.
Non, c'est bon à l'apéro, ça. Trop, hein.
Alors, c'est plus l'heure de l'apéro, mais c'est l'heure du plat du jour avec David Radgeber qui nous régale. David Radgeber, c'est le chef du restaurant L'Assiette.
J'arrive
à Paris.
À table.
Et vous, voilà.
Oh, c'est
une belle...
chaud.
Oh là,
chaud.
Une belle cocotte.
Soulève la fonte, là.
Qu'est-ce que tu mijotes, ma cocotte?
Qu'est-ce qu'elle mijote, votre cocotte? C'est une cocotte de compétition.
Ça, c'est une...
Il y a une famille de 12 personnes à nourrir.
Petite poitrine de cochon.
On va rappeler les étapes pour nos auditeurs qui veulent refaire cette recette à la maison. David Radgeber, ouvrez.
Prêt, est-ce que vous êtes prêts?
On est prêt.
Il faut mettre votre nez au-dessus.
Ah, mais ça vient à nous, carrément.
Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, poitrine
que
de
sucres,
cochon.
Il n'y a que des cuissons. Attends, j'ai un petit jus qui arrive.
Caramélisé. Attendez, avant le petit jus, racontez-nous comment vous avez caramélisé cette poitrine de cochon fermier, David Radgeber.
Alors, tout d'abord, poitrine de cochon demi-sel, que je fais ma propre saumure, que je fais dessaler à peu près 12 heures. Je l'ai cuit au bouillon avec une belle garniture aromatique, que ça soit bien concentré. Carottes, oignons, le bouquet garni, le verre de poireau, tout ce qui va bien, des grains de poivre, le thym, le laurier. Je les cuis 4 heures. Quand elles sont cuites, je les ressors, je les mets tout de suite dans du papier film, je les serre bien et je les laisse tempérer, je les mets au frigo qu'elles soient bien froides. Et après, je fais des gros cubes et je fais mes teriyaki maison avec...
Soja,
un peu de sauce huître, un peu de sucre, un peu de miel. Je l'arrange à ma façon.
Et c'est ce qui enrobe votre poitrine de cochon. Absolument. Et qui la rend caramélisée ensuite, en
Absolument.
Fait.
Absolument. Là, je passe au four et après, j'ai fait un beau jus de rôti avec les parures.
Eh ben.
Et là,
parure.
J'ai...
Ça ouais. S'appelle parure.
Avec les parures de la poitrine. Rien ne se jette,
en fait. On ne
tout
jette
se transforme.
Rien. Vous cuisinez un petit peu le dimanche ou les autres jours de la semaine,
hein. Je vais chercher les cuillères, il me faut les cuillères.
Qu'est-ce que vous faites
Moi, j'invente avec ce qu'il y a autour de moi. Je suis très forte pour la sauce des coquillettes.
Quel genre de sauce?
Eh bien, je ne sais pas, je prends du coriandre, je hache très fort la tomate, je mets des petits oignons aussi très, très hachés. Des fois, je mets un poil de truffe. Enfin, c'est inventif.
Les coquillettes à la Dani, c'est
oui,
pas mal,
c'est ça.
Ça.
Ça peut être un...
Les Daniettes.
C'est joli.
Ah, ben, je vais l'appeler comme ça, tiens.
Dani, vous êtes en tournée, vous êtes heureuse de reprendre la route là avec cet album Horizon Doré, et pas que, parce qu'il se passe plein de choses sur scène.
Non, mais c'est un... Écoutez, chaque fois, je me pince... Parce que je me dis, ça arrive à moi depuis le temps et tout ça. Et puis, je suis en duo avec une guitariste qui est absolument merveilleuse, Émilie March. Et on a une complicité qui est indicible. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, elle a revisité des morceaux qu'on a fait. Et puis, après, il y a un lien avec des citations de femmes. Parce que moi, depuis toujours, je suis pas... J'aboie pas dans les rues pour dire que les femmes sont importantes, mais à ma façon, à moi, je cite des femmes, Anaïs Nin,
Françoise Sagan.
Bien sûr, Françoise Sagan, Marilyn Monroe.
Colette?
Oui, Colette, bien sûr.
Vous aviez joué une épatante amante de Marie-Hélène Bréa,
bien
dans
sûr,
la série
dans
des Claudines.
Claudine, oui.
Bah, dans les années... Moi, je suis de la génération des Claudines.
Je donne quelques dates de la tournée. Tiens, le festival Sémaphore en chanson à Sébaza, c'est le 9 novembre et le 17 décembre. Vous serez à la Manufacture à Saint-Quentin et vous allez aussi nous régaler avec cet album Horizon Doré. On l'aime beaucoup, cet album, ici. On l'a tous écouté ici en préparant l'émission. Il y a un côté rock, il y a un côté Gainsbourg également. Je trouve, avec quelques petites influences qu'on peut retrouver.
C'est guitare-voix.
Guitare-voix. Et puis, dans Horizon Doré, vous dites que vous préférez le présent au passé. Vous pensez quoi de l'époque dans laquelle on vit, Dani, alors?
C'est incomparable, c'est le futur, c'est le présent, là. Moi, je ne fais pas de rétroviseur, donc je ne dis pas c'était mieux avant ou ça sera mieux. J'espère que ça sera mieux demain, parce que c'est le titre de l'histoire. Mais voilà, je prends... là, voilà, on est à table. J'espère que demain, la fameuse phrase sera mieux qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est, on pense aux enfants, on passe à l'avenir, et, enfin, l'avenir proche, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur la tête.
Vous voulez que je vous en parle de l'avenir proche ?
Oui, c'est quoi ?
C'est ça, c'est la dégustation de la poitrine de cochon parfait, fermier de David Radgeber. Joe Star, on ne vous entend plus, mais on vous voit bien regarder cette poitrine de cochon. Hein.
Je suis complètement émerveillé. Je regarde l'artiste, l'artiste vrai.
David Radgeber qui nous sert ces beaux légumes qui ont été cuits à court mouillement avec le bouillon de volaille.
Court
mouillement, c'est comme ça qu'il dit.
Mouillement.
Oui.
En fait, je ne les cuis pas à l'eau directe. Je les cuis. Je fais suer les légumes à l'huile d'olive avec une petite gousse d'ail éclatée.
Ah, ça, ça me
je viens fait. Taper la gousse d'ail. Bam, comme ça, la gousse d'ail.
Mais je disais que je suis contemplatif, quoi, donc forcément je la ferme. Quoi.
C'est ça. Hein.
C'est rare. Hein, mais
Avant de parler du rhum avec vous, Emmanuel Rubin, je vais vous demander un avis sur cette poitrine de cochon. Vous, le critique gastronomique qu'on peut lire dans le Figaro et le Figaroscope.
Je vais vous dire, allez-y, prenez votre couteau et tranchez la pièce de viande. Vous allez voir, rien que le couteau, il pleure.
C'est ça.
Ça c'est
non,
bon,
mais
ça.
C'est impressionnant. C'est-à-dire que
j'ai mis des coins aussi, il y a des petits coins, des petites poires.
Cette manière de garder l'intégrité de la viande, mais en même temps de l'attendrir, mais sincèrement, allez-y, attention,
c'est
Didier.
Très délicieux. Très
ça fond, c'est ça
fond. Star, le cochon, c'est votre deuxième ami aussi, vous aimez. Hein,
ah, mais oui, non, moi je suis gentil, donc nous n'avons pas peur de la petite bête rose, hein, forcément. voilà. Et oui, le cochon, c'est mon deuxième ami. J'aime le Pays Basque pour le cochon, par exemple, entre autres.
Vous dégustez souvent celui d'Éric Hospital, qui est un charcutier là-bas qui travaille le cochon Ibayona, avec
exactement.
De beaux jambons Ibayona.
Voilà, ouais, c'est beau, c'est bon, c'est gourmand, comme dirait Hospital.
C'est ça.
Comme je disais tout à l'heure, moi je suis en train de lancer un magazine de cuisine et je cherche... j'apprends encore tous les jours, quoi, en écoutant des gens...
Vous lancez un magazine de cuisine, racontez-nous, ouais. Comment il va s'appeler ce magazine ?
Ça va s'appeler Five Star, mais ce sera un truc qui ne se la raconte pas. Enfin, oui, on est plutôt...
Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur ?
On est sur... comment dire ? On essaie de rappeler que manger est une fête, cuisiner est le prémisse de cette fête, en fait, comment dire, la cuisine est aussi essentielle que ta salle de bain pour toutes les gonzesses qui se pomponnent là toute la journée, machin, et surtout vitale, en fait, au même titre que ta chambre, et ainsi de suite, quoi. Et surtout aussi dire des choses comme... alors, c'est pour les plus jeunes, enfin, pour l'autre génération, mais dire des choses que tu sais que quand tu as les 3-4 ingrédients, machin, ça prend moins de temps à te faire quelque chose qu'à appeler un mec, enfin, choisir un plat, appeler le mec, le
bien
temps
sûr.
Qu'il arrive, et ainsi de suite. Bon, alors, bien sûr, certaines personnes rentrent chez eux, ils ont 5 personnes à table, et bah, je dirais qu'en bien même, c'est ton moment loisir, en fait, au quotidien.
Oui, mais bien
fait.
Sûr, c'est une bulle, il faut cuisiner.
Exactement. Donc voilà, j'essaie de rappeler des choses comme ça. Moi, je le dis, je ne cuisine pas, je fais à manger.
5 étoiles, alors. Hein.
Voilà, 5 étoiles. Voilà.
C'est très
direct.
Bien. Et ça sort voilà. Quand
Novembre, normalement, courant novembre.
Novembre, et bien, guettez les kiosques, Five Star.
Donc, on ne voulait pas faire un truc cuisine pour les nuls, mais vraiment rappeler que manger est une fête et que, voilà, c'est important de se faire plaisir et que, ne serait-ce que exécuter quelque chose, déjà, c'est un plaisir. Enfin, voilà, quoi. Et quotidiennement, si on arrive à s'inscrire là-dedans, bah, voilà, on a ce petit moment à soi qui s'inscrit dans le partage.
Guettez les kiosques Five Star de Joe Star, le maître queue, hein, s'il vous plaît. Ouais, c'est lui qui va vous apprendre justement à bien
maître
cuisiner.
Queue.
Bah oui, mais du latin coquere qui veut dire cuire, absolument.
Ah, bah, voilà,
c'est du vieux français.
Bah,
ah, si, ouais.
C'est vrai que je me fais appeler maître queue.
Emmanuel Rubin.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
On est à table, un bon appétit si vous l'êtes aussi, c'est la table du dimanche. Si vous avez raté le début, nous sommes ensemble depuis 11h avec nos amis Joe Star à la table du dimanche. Dany nous a retrouvés, David Radgeber nous régale.
On vit à chaque rendez-vous, Didier.
Oui, oui, oui.
C'est incroyable. Hein.
C'était quoi le dernier rendez-vous alors ?
On avait fait un nocturne qui était pas mal, où on était là, on se chuchotait des choses, je ne sais plus avec qui c'était... C'était bien, c'était suavé, c'était
avait,
magnifique.
Oui, mais il y avait surtout beaucoup de rhum aussi. Ta bouteille.
Il devait être 20h quelque part, forcément.
Forcément.
Bah alors, vous me faites la transition, Dany, justement, parce que je sais que vous buvez peu de rhum en mangeant Joe Star. Hein. Vous buvez du vin. Là, on est sur un Mont-Louis. On n'a pas parlé du vin.
Ah oui,
Mont-Louis, sur Loire, c'est un chenin. C'est un vin qui va bien avec les rillettes qu'on avait au début et qui va très, très bien également avec cette poitrine de cochon fermier cuisinée par David
Radgeber. Pas très loin de Tours, hein.
Non, c'est le Rocher des Violettes que nous sommes en train de boire. C'est un vin que vous trouverez à moins de 20 euros. Et ça va bien avec cette poitrine de cochon, poétique. David Radguébert.
Ben, j'aimerais bien en avoir pour le dire.
Eh ben, on va vous servir. Alors Emmanuel Rubin, tiens, je vous laisse la parole. Vous allez nous parler d'une bataille autour du Rhum. Ça va intéresser Joëstar. On a parlé de sa Route de la Soif tout à l'heure, cette série documentaire sur le Rhum. Racontez-nous ce qui se passe.
Parce que sincèrement, ce n'est pas parce que Didier Joëstar est là que je parle de Rhum. C'est que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais mal digéré la bataille perdue de nos maisons de champagne en Russie, cette fameuse campagne russe, exactement, où les Poutiniens ont décidé que nos champagnes ne pourraient plus s'appeler champagne en Russie. Et qu'est-ce que j'apprends il y a quelques jours? Eh bien que là, on est en train de gagner une bataille du Rhum. Alors je vous explique. Le Rhum, d'abord, c'est une culture, c'est des zones, c'est des territoires. Puis il y a le Rhum antillais, c'est-à-dire le Rhum français, qui est protégé par l'AOP, Rhum martiniquais, Rhum guadeloupéen. Puis il y a les autres rhums. Et puis le rhum, on le sait tous, c'est la canne à sucre. Il y a deux façons de travailler la canne à sucre. Soit vous la travaillez et vous en extrayez ce qu'on appelle le jus de canne, le vézou. Et ça, c'est la quintessence, c'est l'aristocratie du rhum. Soit vous travaillez la mélasse. Et ça, c'est un sous-produit. Et la plupart...
Vous êtes d'accord jusqu'à présent,
Joël? Non, mais je ne dis rien.
Moi, j'ai un rhumophile.
J'ai un micro, pardon.
Vous avez un micro dans la poitrine.
Dans la poitrine, la poitrine.
Mais tout à fait, tout à fait.
Et on va voir. Mais c'est vrai que les Antillais travaillent ce que j'appelle, moi, effectivement, la quintessence, c'est-à-dire ce vaisseau qui va donner des amplitudes aromatiques, olfactives, un rhum très élégant, un rhum parfois complexe et un rhum vraiment dense, riche et qui prouve que c'est une culture. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'école sud-américaine, l'école hispanique. Eux, ils travaillent la mélasse. Donc, ça donne des rhums assez ambrés, sucrailleux, assez faciles. Ils sont un peu au cinéma,
ce qui est... On ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans, en plus.
On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. C'est un peu limite, comment vous dire, si le rhum antillais, c'est de l'érotisme, le rhum sud-américain, c'est de la pornographie.
Mais je vais le dire autrement. En fait, c'est un rhum qui est fait pour le marché américain. Donc, des gens qui ne sont pas très regardants, en fait, et qui sont plus sur le cocktail, sur le sucré, sur le...
Un rhum facile, addictif, voilà, rapide. Alors, il y a une manière de concurrence déloyale. Et on reproche souvent à l'Europe, vous savez, de faire du mal à l'agriculture. Bah, cette fois-ci, elle a fait du bien. Belle nouvelle. Il y a une directive qui est passée au printemps dernier et qui vient de rentrer, là, ces semaines-ci, en rôle. Et elle décide, la Commission européenne, de dire que désormais, aura le droit à l'appellation rhum, tout rhum, où il n'y aura pas plus de 20% de sucre. Ce qui fait que c'est une forme de revanche pour le rhum antillais, le rhum martiniquais, le rhum guadeloupéen, qui va pouvoir être un peu protégé sur le continent européen, et notamment en France. Et moi, je trouve surtout que ça va permettre un petit peu aux gens de s'évangéliser au rhum. Le rhum, c'est une vraie culture. Regardez ce qu'ont fait les Écossais en 40 ans. Il y a 40 ans, on buvait des blends. Oh, c'est sympathique, avec un
whisky,
coca,
là, ouais,
des whisky.
Ouais, ouais.
Et en 40 ans, les Écossais, ils nous ont évangélisés. Aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un single malt, un pur malt. Malheureusement pour le rhum, alors que c'est finalement un alcool très français. Je te rappelle, l'Antille, elle est française avant la Savoie. On le connaît mal. Et bien, grâce à cette directive...
Alors qu'il est quand même devenu un produit de luxe.
De luxe, bien évidemment. Ça, mais... Et grâce à cette directive, non seulement on va protéger nos rhums, mais en plus, on va pouvoir, je crois, aller... autre part et autrement que vers ces rhums un peu faciles. Et puis, je suis content que le rhum offre une revanche à la bulle.
Mais j'ai juste une question, parce que tu as l'air plus au courant que moi, ce qui est normal. L'appellation Rhum.
Alors justement, très intéressant. Ça, c'est les Hispaniques.
Rhum, donc R-U-N, c'est
alors,
ça?
Ils écrivent R-U-N.
Ou R-O-N aussi.
Exactement. Et ça, c'est super intéressant, parce que justement... Ce rhum à l'espagnol, ces rhums sud-américains, ils ont beaucoup de mal avec l'appellation rhum et finalement, au fond d'eux-mêmes, ils doivent savoir qu'ils ne font pas vraiment du rhum. Et c'est eux qui emploient ces mots-là, des noms d'oiseaux. Et ça détourne le genre. Mais aujourd'hui, ils vont continuer de le faire sur le marché, rhum. Mais le vrai rhum, R-H-U-M, il sera protégé. Et je pense que c'est une belle, belle nouvelle. Moi, je suis content. On a perdu la campagne de Russie. On gagne la bataille
du... C'est une belle nouvelle.
Puis l'autre qui parle de créalisation, il aura une bonne raison.
Dany, quels sont les alcools que vous aimez consommer avec plaisir et avec modération?
Ah, ça va.
Alors, non, mais c'est sans modération.
Donc, c'est quoi? C'est le vin, c'est le rhum, des alcools forts des...
Alors, quand on a goûté... le rhum que Didier nous amène, là, après, c'est un truc qui te reste gravé dans la tête. Et puis, si tu commences, hop, c'est parti. Après, ce que j'aime bien, c'est les très bons Bordeaux. Par exemple, quand je pense que j'ai bu une fois à Aubryon 1947, j'ai encore le goût qui me revient dans la bouche.
Ouais. On s'en souvient, oui.
Non, mais ça marche. Ce que je veux dire.
Ah oui, je vois bien,
après,
oui.
Après, je ne suis pas très vin, mais j'aime les bonnes choses. Donc, ça, selon ce qu'on mange, ça, ça va avec ce qu'on est en train de déguster. Mm-hmm. Donc, c'est top. Après, moi, je suis catalane. Le plat de ma maman, c'était la paella. Donc,
bel accord.
Voilà. Et ce que je peux vous dire, au départ, c'était le poulet du dimanche. Après, la paella. Et après... le vin, quoi.
Un vin de Collioure, alors
bah, ah, ils sont un peu trop doux pour moi. Ah bon, ils sont très doux, je trouve.
Alors, on approche de la fin de l'émission, les amis. C'est l'heure de partager nos coups de cœur, qu'ils soient culturels, qu'ils soient gastronomiques, restaurants, livres, cinéma, théâtre. Je commence par vous, Joël Start. Il y a une recommandation pour nos auditeurs pour ce week-end ou les semaines à venir.
Alors, littéraire...
Comme vous voulez. Un spectacle, un livre, un restaurant.
Le problème, c'est que
moi,
je marche à l'humeur. C'est-à-dire que je change d'avis tous les deux jours.
Bah, la vie du moment.
Ouais, je dirais que ce week-end, j'avais un petit briefing sur les séries là, que je suis en train de faire. Et donc, on s'est fait les cocottes rue Saint-Dominique.
Anciennement Christian Constant.
Exactement. Et pour le cassoulet, entre autres.
Ah. C'est bon,
mais
ça.
Des pommes de terre farcies.
Eh ben.
Oui, enfin voilà, quoi.
On s'est mangé.
Il y a battle, hein. Le cassoulet.
Dany, une recommandation, ça peut être un livre, un restaurant, un film.
Alors,
un spectacle.
Peut-être que j'en ai deux. C'est d'aller voir, ça fait un peu, je sais pas, bizarre, d'aller voir l'exposition que M. Pinault a fait à l'ancienne Bourse du Commerce, là. Ça, c'est...
La Fondation c'est, François
oui,
Pinault.
Voilà. Oui. On reste sans parole, parce que c'est un univers, d'un seul coup, ça vous transporte. Et après, mon restaurant à Tours, il s'appelle Le Valmy.
Ah,
il
ouais,
est
belle adresse.
Juste en bas de chez moi, avec un joli petit jardin. Et là, je peux aller à 7h du matin boire le café, manger, déguster des légumes sautés.
Ça me donne envie de boire à 7h du matin, ce que tu racontes. Avec modération,
toi, oui.
Bien sûr.
Mais, non, moi, je bois le café pas arrosé. Je ne fais pas une Marie Chatouillette. Tu sais que le matin...
C'est quoi une Marie Chatouillette?
Alors, le matin, dans les bistrots, les personnes qui vont travailler, tout ça, dans certains bistrots, il y a le code qui dit « Je voudrais une Marie Chatouillette ». La Marie Chatouillette, c'est un café avec un cognac dedans ou
un calva
ou un truc comme ça. Mais on ne prononce pas le mot « Allô, café calva », quoi.
D'accord.
Et ça s'appelle une Marie Chatouillette.
Alors, moi, je le dis parce que je suis ce qu'on appelle une insulte aux gens bien portants. Il m'arrive à 7h du matin de rentrer dans un café et de dire « Je veux un calva ».
Bah maintenant, il faudra dire une Marie Chatouillette.
Voilà, voilà.
Là, tu vas te faire virer du café.
Non, mais alors, si ça doit prendre 2 heures, parce que le
non,
gars n'est pas... Enfin, voilà. Alors, moi, je voulais juste rajouter un truc. Et un truc que je ferais bien, j'irais bien au cinéma voir le film des deux poteaux, Marina Foïs et Boué.
Barbac.
Ouais, Barbac, ouais.
On en a parlé hier à la table des bons vivants. Absolument.
Ça me donne très envie.
Ouais. Alors, c'est très drôle. C'est un film drôle, décalé, complètement trash et qui est très marrant parce qu'il joue le rôle d'un couple de bouchers, tous les deux, et qui vont cuisiner des véganes. Parce qu'ils vont se mettre à transformer des véganes qu'ils vont transformer en porc d'Iran. Parce que la clientèle trouve ça super bon, le végan, et ils disent c'est quoi ? Et ils leur répondent c'est du porc d'Iran. Ah bon ? Bah, très bien, bah, je vais en reprendre.
Un porc perse, putain.
C'est
pas très bon.
Ils sont allés jusque-là, effectivement.
Ça
s'appelle Barbac. Une recommandation, un bien essentiel de votre côté, David Radgaber.
Moi, je vais être classique, un petit jeune qui vient d'arriver dans le 14e, l'assiette. Voilà,
voilà
non,
c'est
je
vous.
Déconne.
Non, mais...
non, j'ai découvert, quand j'étais au Syrah à Lyon, là, un jeune cuisinier très talentueux, Bistro Pimousse, sur les quais Saint-Vincent. Très bien. Une belle table.
Eh ben on prend. Et une recommandation de votre côté, Emmanuel Rubin.
On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, les 30 ans d'une maison d'édition qui s'appelle L'Épure.
Formidable Sabine.
Maison d'édition.
Sabine
qui sont nés, exactement. Ils ont commencé par l'architecture. Rapidement, ils sont tournés vers la gastronomie. Ils ont créé une vraie collection. Ces fameuses 10 façons de cuisiner.
C'est ma belle-fille.
Votre
Sonia.
Ah oh bah alors là,
Sonia
Esgulian.
Sonia Esgulian,
grande cuisinière. C'est votre belle-fille, Sonia Esgulian.
Elle a épousé mon fils.
Mais je ne savais pas.
Votre fils, c'est Emmanuel.
Oui. Okay.
Je connais son mari.
Et bah voilà, qui est photographe et qui fait les photos de ses livres de cuisine.
Tout le monde connaît cette table.
Allez,
voilà.
Je vous promets que j'en reparle prochainement parce que c'est trop long à raconter. Ouais. C'est une formidable collection avec ces fameuses 10 façons de cuisiner.
Et la rose,
l'haricot, le potiron, le Coca-Cola, ils vont partout. De la pop, la truffe. Dernière édition, c'est la sauge. On en reparle prochainement.
Et je le rejoins sur le lard, moi, absolument.
Alors, attends, moi, j'ai juste un truc à te suggérer. Les deux, là, le chef et le critique, ils devraient faire du doublage cinéma, les deux. Hein. Ils sont tous les deux les voix.
C'est vrai, on est d'accord.
Dessin animé,
on n'est pas sur du Laurence Badi, mais
pas loin, quoi.
Laurence Badi, grande comédienne de théâtre de boulevard. Puisqu'il faut toujours terminer sur une note sucrée, Joël Star, petit cadeau pour vous. Ça devrait vous rappeler votre enfance. Qu'est-ce que c'est ?
Ce sont des marrons glacés.
Et voilà.
Parce que je faisais un truc de dingue, c'est-à-dire que mon père, chaque fin d'année, en fait, allait promo de Noël, il achetait des boîtes de marrons glacés, machin. Et en fait, ce que je faisais, c'est-à-dire que moi, j'étais en transe devant ce truc-là, qui était enfermé dans un buffet façon à l'ancienne. Donc, bien sûr, je mettais des coups de tête pour ouvrir le buffet. Et en fait, c'était une époque où je volais aussi des CD à la Fnac. Oui. J'avais une technique, je mettais une lame de rasoir entre mes deux doigts. Et c'est-à-dire, sans qu'on me voie, j'arrivais à enlever le code-barre avec la lame de rasoir. Oui. Donc, si tu veux, je maniais la lame de rasoir comme personne. Et donc, je découpais le truc, tac, je me disais, je vais en prendre un. Mais ce qui est ridicule, puisqu'à chaque fois qu'il allait les offrir, j'étais avec lui. T'imagines pas la scène.
Et il offrait une boîte vide.
Le mec, à chaque fois, les emballait, machin, et on arrive, et donc on arrive chez les gens, la famille, hein, bien sûr, il ouvrait le truc, et il en manque trois. Non, mais et parfois, il en manquait, le truc. Et donc, il en restait deux. Tu vois, genre, mais on parle pas de petits trucs comme ça, on parle des grosses boîtes rectangulaires comme les boîtes de chocolat.
Mais
exactement.
Glacée,
donc t'imagines après en rentrant comment je me faisais souffler dessus. Quoi.
Plaisir d'offrir, joie de recevoir.
Et ça, vous le racontez dans Le Petit Didier aux éditions Robert Laffont. Vous l'avez lu ou pas encore,
oui, Dany?
Eh ben voilà, c'est une belle scène qu'on peut retrouver dans Le Petit Didier. Merci, Joël Star.
Merci de m'avoir
venu nous régaler. Merci, Dany, d'être venu à la table du
monde. Moi, je vous remercie pour ça aussi, parce que Dany.
Voilà, et ben parce que Dany avec
lui. C'est pas du zèle, les gars.
Ben je sais. C'est pour ça qu'elle est là.
Arrête.
Horizon Doré, c'est votre album. Vous venez de faire le Bataclan, mais la tournée continue jusqu'en 2022. On retrouvera les dates sur europe1.fr. Merci Joël Star, merci Dany. Salut Emmanuel Rubin.
Salut.
Merci infiniment David Radgeber pour cette belle régalade. On vous retrouve dans votre restaurant L'Assiette. Dans le 14e arrondissement. Et cette poitrine de cochon fermière aux petits légumes à court mouillement était un délice. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. David Ordonneau à la rédaction en chef, Claire Dutronc à la programmation et la rédaction, Julien Amat à la production, Loïc Vimard à la réalisation et puis Olivier Duval à la technique. Bon week-end sur Europe 1, les amis. Dans un instant, c'est Europe Midi Week-end justement avec Thierry Dagiral. Merci les amis.
Bisous,
merci,
bisous.
Salut, bisous.
Oh là là, c'était un super
joli nom, Sonia.
Je savais pas que
c'était votre regret. Cette poitrine de cochon. Attends, tu sais ce que j'ai ramené là, en surprise.
Rapportez,
j'ai ramené la petite crème caramel au beurre salé.
Attends, on rapporte quelque chose, on ramène quelqu'un.
Hein ? Ah ouais ? J'ai ramené un truc alors.
Tout ce qu'on a si bon dans l'assiette.
Ah ! Bah, tu vois. Tout le monde veut de la crème caramel ou pas ?
C'est pas moi, mais c'était quelle heure quoi, c'est ça, là.